IDFM Radio Anguin 98 de la Monde FM, 14h, un peu plus de 14h, nous sommes lundi et nous sommes ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement dont on ne parle pas en France et qui concerne quand même l'Europe. Nous sommes avec deux hommes, un qui s'appelle Éric Bastin du Monde Sans Guerre et Denis DG de la...
Du Centre des Cultures.
Centre des Cultures, je ne l'avais pas noté, voilà, et on va parler de beaucoup de choses. Donc, on va vous accueillir tous les deux déjà pour savoir un peu ce que vous faites, etc. On commence par Denis DG qui a déjà pris la parole. Voilà, donc du Centre des Cultures. C'est quoi le Centre des Cultures ?
Bonjour déjà.
Bonjour.
En fait, le Centre des Cultures, c'est un organisme, une association qui est présente un peu partout dans le monde et qui a pour but de créer des ponts entre les cultures, un dialogue entre les cultures, promouvoir un peu la relation entre les différentes cultures pour qu'elles ne soient pas isolées les unes des autres, dénoncer, lutter un peu contre toutes les formes de discrimination aussi, dont souvent on est victime parce qu'on est d'une culture différente que la culture majoritaire dans un pays, par exemple, comme la France. Et puis aussi, notre troisième point important, c'est de diffuser un peu les aspects humanistes et non-violents qu'il y a dans chaque culture et les développer. C'est-à-dire un peu promouvoir les aspects un peu humains, les aspects qui vont vers la paix, vers les autres, dans chaque culture, pour redéfinir un peu le centre de chaque culture, qui est un peu la règle d'or, qui est de traiter les autres bien. Et souvent, on l'oublie, quoi. On oublie que c'est pas que du folklore, les cultures.
D'accord, donc Centre Culture France, ça reste en France ou ça s'est un peu passé dans les autres continents? Non, c'est très français.
Ah non, le Centre des Cultures, il existe dans à peu près 30 pays actuellement.
D'accord.
Autant en Afrique qu'en Amérique latine, qu'aux États-Unis, donc en Europe, dans différents pays. Et plus ça va, plus il se développe à peu près partout. Là. Actuellement, on est en train de le développer au Bénin, par exemple.
Mmh. Ok. Et donc, Éric Bastin, bonjour.
Oui, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc l'association Monde Sans Guerre, hein, donc c'est aussi une association bien sûr humaniste. Son objectif, c'est indiqué un peu dans son titre, un monde sans guerre et aussi sans violence, hein, parce que la guerre, c'est que simplement une forme extrême de la violence. Et notre combat, c'est au-delà de la guerre aussi, c'est contre toute forme de violence. Alors bien sûr, ça peut peut-être faire sourire un peu certains, un monde sans guerre, ça peut paraître un idéal assez loin, mais en tout cas, ça nous paraît, quand on voit les désastres que produisent les guerres, ça nous paraît une nécessité urgente de faire quelque chose par rapport à ça. Et un des thèmes aussi de nos actions concerne le désarmement nucléaire, hein, donc avec la campagne contre le bouclier spatial, notamment l'implantation du radar en République tchèque, dont on va parler
voilà,
un peu plus.
C'est le but de l'émission d'aujourd'hui. On a bien assez des catastrophes naturelles sans en plus se faire des morts au niveau des guerres. Voilà, donc Monde Sans Guerre, c'est une association qui a combien d'années ?
Alors, au niveau international, parce que c'est une association aussi internationale, ça doit avoir à peu près une quinzaine, vingtaine d'années.
D'accord. Qui est-ce qui avait... C'est français au départ, ça part d'où ?
En fait, c'est venu d'un ami espagnol qui s'appelle Rafael de la Rubia, qui a lancé cette initiative. Et à l'époque, même, il y avait l'image d'avoir un monde sans guerre en l'an 2000.
On n'en est quand même pas encore là, mais bon, peut-être en 2010, qui sait, il nous reste deux ans. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi d'abord un bouclier spatial ?
Alors, en fait, ce bouclier antimissile, hein, c'est un projet des États-Unis. Hein, c'est déjà ça qui est important à dire. Et en fait, ça consiste à avoir notamment un système de radar pour détecter les missiles qui attaquent et aussi d'avoir des missiles intercepteurs. Hein. Alors, il y a toute une campagne qu'on a développée par rapport à ça. Et notamment, il y a le projet d'implanter un radar en République tchèque. Hein. Donc, cette campagne, elle est partie de République tchèque. Et notamment, là, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'amis, hein, notamment donc des amis tchèques, qui font une grève de la faim.
Hein. Depuis combien de temps ?
Depuis mardi, il y a 15 jours.
Ouais, à peu près 15 jours. Hein. Alors, pourquoi ils sont arrivés à cette situation-là ? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'actions de fait, des manifestations, enfin, un certain nombre de choses. Et en fait, le gouvernement tchèque, alors que la population tchèque, dans sa très grande majorité, 70% des gens, sont contre cette base radar en République tchèque, eh bien, le gouvernement tchèque est en train de passer l'accord avec les États-Unis. Et cet accord, normalement, doit être ratifié d'ici peu par le Parlement tchèque.
D'accord, et cet accord permettra de faire quoi exactement ?
En fait, d'installer ces composantes du bouclier antimissile. Donc il y a un certain nombre de composantes aux États-Unis, en Europe, et donc les États-Unis prévoient de l'installer en République tchèque, un radar, et en Pologne, qui seraient des missiles intercepteurs, hein, c'est-à-dire les missiles. Par contre, on peut dire un peu en quoi c'est grave, ce bouclier antimissile. Donc, la première chose, c'est que, en fait, les États-Unis utilisent le prétexte de l'Iran, hein, pour installer ce bouclier antimissile. Or, en fait, ça, c'est totalement inexact. C'est un mensonge, parce que d'abord, l'Iran n'a pas les missiles qui pourraient menacer les États-Unis. Et de toute manière, pour avoir ce type de missile, il faudrait beaucoup de temps et avoir une assistance technique. Et puis, si on est un petit peu sérieux.
C'est lequel, ce M51, non? C'est lequel?
Non, là, c'est des missiles intercontinentaux, classiques, je dirais, hein, qui peuvent être équipés de tête nucléaire. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un peu prendre les gens pour des idiots de faire croire que l'Iran pourrait envoyer des missiles, parce que bien sûr, il y aurait une riposte des États-Unis et on raillerait l'Iran de la carte. Hein. Non, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce... Et puis, bon, ça ressemble avec l'histoire de l'Irak, où les États-Unis nous ont raconté, enfin, les dirigeants américains ont raconté qu'il y avait l'existence d'armes de destruction massive, donc ce qui justifiait l'invasion de l'Irak. Hein, et puis, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas du tout d'armes de destruction massive. Donc là, quelque part, on resserre le même plat, hein, sauf que là, on dit non merci. Cette fois-ci, on ne veut pas définitivement ce plat, parce qu'il est paraît vraiment trop indigeste.
Il faut dire aussi que c'est un vieux plat, si je puis dire, un plat qui a déjà servi plusieurs fois, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de nous faire, là, c'est une nouvelle guerre froide.
Absolument.
Il faut le dire, parce qu'en fait, bien sûr qu'on parle de l'Iran, là, mais par exemple, la Russie le prend très mal actuellement. Il faut imaginer que les missiles vont être juste à côté de la Russie, quoi, c'est-à-dire au nord de la Pologne. Et la République tchèque, c'est très, très proche aussi. Et donc, il semblerait que la Russie a une tendance nationaliste très forte actuellement et veut relancer un programme aussi de missiles pour compenser cette agression des États-Unis, quoi. Donc, en fait, la réalité, c'est que l'Europe va se retrouver un peu comme le champ de bataille. Déjà, étant donné qu'il y aura un radar en République tchèque, ce que disent nos amis tchèques, c'est que l'Europe sera la cible, hein, puisque c'est les radars qui vont guider les missiles.
La vieille Europe avec son euro qui voilà. Dérange un peu. Hein.
Voilà.
La vieille Europe.
Alors, on peut même dire là que la vision des États-Unis, hein, c'est considérer l'Europe comme une colonie. D'ailleurs, on est quand même très frappé, même assez scandalisé, que l'Europe ne réagit pas par rapport à ce projet. Les États européens ne réagissent pas, et notamment la France, bien sûr, qui est directement concernée.
Ah oui, puisqu'on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais il y a Eurosatory qui. La vente d'armes mondiale se fait quand même en France, avec un super truc après au Louvre pour ces messieurs. Donc, on vend des armes d'une destruction massive chez nous, donc on va pas dire que. Voilà, mais les Américains, de toute façon, ils sont quand même implantés, ils ont des bases un peu partout, y compris
déjà,
en France.
Déjà, oui,
en France,
en Italie, en Belgique, en Hollande, en Turquie.
Alors, c'est même pire que ça, il y a effectivement des bases militaires des États-Unis en Europe, hein, dans un certain nombre de pays, mais il y a 6 pays européens où il y a même des têtes nucléaires, des armes nucléaires américaines, ce qui est quand même incroyable de voir ça. Hein. Je voudrais quand même, je disais que l'Iran c'était un prétexte, peut-être il faut dire la véritable motivation des États-Unis derrière ça. C'est simple à comprendre en fait, pour les États-Unis c'est le bouclier antimissile, c'est un des éléments d'une stratégie globale qui vise simplement à conserver la suprématie sur le reste de la planète, c'est-à-dire sur les peuples. Parce que, par exemple, l'administration américaine dit que c'est un système défensif. Mais en aucun cas, c'est un système défensif. Et c'est très simple à comprendre. Et même quand on dit ça, on commence un peu à prendre des gens pour des idiots. C'est-à-dire que ce bouclier antimissile, c'est un élément offensif. On va prendre deux exemples. Imaginons que les États-Unis veulent attaquer un État. Donc ils attaquent cet État et puis ensuite ils déploient leur bouclier antimissile pour se protéger. Et inversement, en cas d'attaque que subiraient les États-Unis, ils mettront en œuvre ce bouclier antimissile et ensuite ils ont toute la latitude d'attaquer l'ennemi. Et en plus, on se rend compte que, en fait, ça, c'est si on veut comprendre aussi, il faut avec un peu plus de contexte général, c'est que ça, c'est un des éléments de la stratégie américaine. En particulier, on peut citer que les États-Unis sont en train de ont revu totalement leur stratégie nucléaire. C'est-à-dire que avant l'arme nucléaire, c'était un peu considéré comme une arme dissuasive. Aujourd'hui, quand on regarde les documents des États-Unis, c'est clairement indiqué qu'ils utiliseraient directement et sans état d'âme ce type d'arme.
Avec Hiroshima et Nagasaki.
Bien sûr, tout à fait.
S'ils avaient des états d'âme.
Oui, bien sûr.
Voilà.
et qu'ils sont en train de effectivement moderniser et de fabriquer de nouvelles armes nucléaires, notamment des armes miniatures qui sont directement utilisées dans les champs de bataille. Et puis aussi, il y a une relance effectivement à l'armement dont les États-Unis sont un des acteurs majeurs. Il faut savoir aujourd'hui les dépenses militaires dans le monde, pour citer qu'un chiffre, c'est plus de 1000 milliards de dollars, et la moitié de ces dépenses, c'est les États-Unis.
Et puis avec un quart de cette somme, on pourrait régler tous les problèmes du monde.
Tout à fait.
Mais forcément, ça serait peut-être pas dans les poches des mêmes.
Il y a aussi un grand changement depuis quelques temps, là, on en a parlé un peu parce que ça fait quand même un moment qu'on bouge sur ce thème-là, et actuellement, il semblerait que les États-Unis et la France aient changé de doctrine militaire et que maintenant, ils disent qu'ils pourraient utiliser l'arme nucléaire tout de suite, c'est-à-dire pas... avant, on disait que c'était une arme de défense, mais maintenant, ils veulent changer leur doctrine militaire et prétendent l'utiliser, justement, ces nouvelles armes-là nucléaires, ils voudraient les utiliser tout de suite sur le conflit, quoi.
Donc c'est la population civile qui prend dans ces
cas-là, c'est ça.
On est d'accord.
Tout à fait.
Donc c'est aussi pour faire un peu qu'il y ait moins de monde sur Terre, puisqu'il semblerait qu'on soit trop nombreux, non ? C'est pas une arme de destruction massive.
Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on parle des États-Unis, mais ce qu'il faut être bien clair, c'est que c'est l'État américain, et que l'État américain, il est au service du capital financier. C'est-à-dire que depuis un certain temps, on peut plus dire vraiment qu'il existe des États et des gouvernements. Tous, ils sont utilisés par le capital financier. Et le vrai pouvoir, c'est le capital économique et financier. Et il dirige les États, et en particulier l'État américain, pour s'installer sur toute la planète. Pour ça, il leur faut des ennemis. C'est vrai que leur technique, c'est beaucoup d'avoir des ennemis. Et ils travaillent beaucoup là-dessus, sur la vengeance, l'ennemi, etc. Des trucs très anciens, qui datent de 6000 ans, quoi. Au moins, la doctrine d'œil pour œil. Donc, pour Dan, c'est un truc qui a été inventé à Babylone il y a 6000 ans. Ils en sont encore là, quoi. Et pour installer un pouvoir financier, en réalité.
Oui, puis ça, je veux dire que peut-être le fait de moi j'ai entendu des gens qui disaient que avec les circonstances dans lesquelles on est en ce moment, une bonne petite guerre, ça ferait pas de mal, puisqu'après on reconstruit tout et ça redémarre l'économie. Mais bon, c'est horrible de penser comme ça.
C'est que les gens là, moi j'ai vu beaucoup, là, j'étais au Wall pendant une semaine, on a beaucoup discuté avec les gens.
Où ça ?
On était à la Fontaine des Innocents, on avait un stand.
Oui, c'est vrai, donc ça s'est terminé hier soir.
Oui, et on a fait toute une campagne pendant donc les deux week-ends plus la semaine, 9 jours. On a été là tout le temps, de 11h jusqu'à 20h, pour sensibiliser les gens, faire signer la pétition en ligne. On va en parler de la pétition,
oui,
c'est important. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait quand même des tendances très fortes de gens. Et ça, je pense que c'est des missiles, mais c'est des missiles dans la subconscience, dans le subconscient des gens, dans la conscience des gens, qui rendent les gens super cyniques, super méchants, parce que en fait, en disant ça, ils prennent la position des États. Ça, c'est la position des États, de dire qu'il faut exterminer une partie de la population parce qu'on est trop nombreux. Mais c'est pas une position humaine. Si on parle avec le cœur et avec les sentiments, avec la compassion qu'on devrait avoir normalement pour n'importe quel être humain, on peut pas parler comme ça. Et ce qui m'a touché, c'est par contre, c'est que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui avaient autour de 16, 18, 20 ans, eux sont révoltés tout de suite et ils ne demandent même pas d'explication, ils savent bien que c'est leur vie qui est en jeu avec ce problème.
Sûr. Oui, parce que c'est pas parce qu'on ira détruire l'autre côté de la population de la planète, et en plus on ne sait pas si c'est pas nous qu'allons prendre en premier, si les survivants vont pas... Les vents tournent, donc de toute façon le nucléaire c'est du nucléaire. Donc on se reprendra sur la tête ce qu'on a envoyé sur le
monde. Même on est dans une situation aujourd'hui, avec l'évolution technologique malheureusement. En fait, aujourd'hui, l'humanité, pour la première fois, a des armes de destruction massive, notamment l'arme nucléaire, qui peut conduire même à la disparition de l'espèce humaine. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu, c'est bien celui-ci aujourd'hui, c'est la disparition de l'espèce humaine même.
Alors, est-ce que ces gens super riches ont de quoi, avec quelques esclaves quand même, pour leur cirer leur pompe, vivre sous des cloches de verre ou je ne sais quoi ? C'est pas possible, parce que si c'est la disparition de l'espèce humaine, c'est aussi la disparition de ceux qui, entre parenthèses, mènent le monde.
Oui, c'est vrai.
Donc on peut pas comprendre en même temps qu'on en arrive là.
Je pense que c'est une intention qui est basée sur des trucs. Nous, on l'étudie beaucoup dans le centre des cultures parce qu'on s'intéresse aux cultures. Et vous savez, dans toute culture, il y a des mythes fondateurs. Et c'est important ce mythe fondateur de la vengeance, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, parce qu'il est né il y a très très longtemps et continue à agir même à travers des religions soi-disant qu'il refuse. Il y a beaucoup de gens qui continuent à penser comme ça. Et le problème d'aujourd'hui, vous savez, c'est qu'il y a eu une grande révolution technologique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé dans tous les domaines. Bien sûr, de l'armement, puisqu'on en parle, mais dans des domaines positifs, comme aussi la médecine, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas évolué de la même manière à l'intérieur de notre tête, de notre mental. Et c'est ça qu'on doit changer aujourd'hui. On doit arrêter de vivre comme des hommes préhistoriques et penser comme des hommes préhistoriques. Puisque la technologie a avancé, les cultures... doivent avancer dans les meilleurs aspects, parce que sinon, c'est vrai qu'on risque d'aller au choc et au conflit final.
Il faudrait aller au désarmement, mais bon, on est loin d'aller au désarmement. On a Francky à la technique, on va faire la première pause musicale. Merci Francky.
France. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM.
Merci Francky pour cette merveilleuse chanson d'Aznavour. Donc nous sommes toujours avec Eric Bastin du Monde Sans Guerre et Denis DG de Centre des Cultures. On va repartir un peu sur ce qui se passe en République Tchèque, puisqu'il n'y a que nous qui semblons en parler. On n'a aucune information en France, non ?
Non, justement, c'est le problème. Hein. On envoie des communiqués de presse pratiquement tous les jours, là, depuis 15 jours, depuis que leur grève de la faim a commencé. Et c'est un peu le vide, à part, je voudrais remercier quand même des sites citoyens d'information, comme Agoravox, qui sont les seuls à passer l'information.
Essayer d'aller sur Rue 89, essayer des choses comme ça, non ?
Oui, on a fait aussi, mais pour l'instant, c'est Agoravox qui a répondu, et même qui a transmis à Yahoo Actualité, etc. Donc ça... Mais c'est vraiment les moyens, c'est très dur quoi, de faire passer cette information en France. Quoi.
Alors, faire passer quelle information, juste ?
Bon, déjà, nous, ce qu'on invite, il y a une pétition à signer en ligne sur le site www.nonviolencetoutattaché.cz, hein. C'est-à-dire c'est le site des Tchèques. Signer cette pétition, c'est important, contre le bouclier nucléaire, le bouclier
antimissile.
Spatial, antimissile, voilà. Et aussi pour soutenir nos deux jeunes amis là qui sont en République Tchèque, c'était Yann Tamas et l'autre Yann, hein, Yann Béchard.
C'est des Tchèques.
Bednar, hein. deux jeunes Tchèques de 30 ans. Et c'est important ce qu'ils ont fait, parce qu'au début ils ont commencé vraiment seuls, hein, et en deux ans, parce que ça a commencé il y a deux ans le mouvement contre les radars en République Tchèque, hein, ils ont réussi à rassembler plein d'organisations, plein d'associations, plein de gens, et ils ont même fait des manifs où il y a des dizaines de milliers de personnes, hein. Après, donc, parce que ce qui est important aussi, c'est de montrer que c'est vraiment, il y a des gens qui disent non, c'est bien, faut se protéger et tout ça, mais en réalité, je pense que ça doit être quelque chose de dangereux, ce bouclier spatial, parce que, en fait, l'information était cachée. Et justement, le travail qu'ils ont fait, c'est en réunissant les gens, en mobilisant, c'est que les médias tchèques ont été obligés d'en parler. Et si bien qu'au bout d'un moment, bah, la population, en effet, comme le disait Eric, à 70% s'est opposée, à ce projet. Donc c'est vraiment important qu'aujourd'hui les gens se mobilisent et donnent leur point de vue, et plus on aura de signatures, là on en est à 100 000 hein, sur toute l'Europe, il faudra arriver à 500 000 signatures, hein, ça serait génial, hein. Donc c'est important d'aller sur ce site là, www.
Il y a un lien en français alors ?
Ah oui, alors dans ce site là, c'est qu'on va sur www.nonviolencetoutattaché.cz, il y a un petit drapeau français en haut, tu cliques dessus, tu l'as en français, et si tu parles une autre langue, tu l'as aussi en espagnol, en italien, enfin bref, dans toutes les langues d'Europe, et tu peux signer la pétition dans ta langue.
Hein.
Et en plus tu peux aller voir, parce qu'il y a des vidéos qui explique bien, hein, le problème, peut-être mieux que nous, par des gens qui sont vraiment spécialistes dans le domaine. Hein. Et moi, je veux dire, ça m'effraie tellement. Et surtout, je connais Yann Tamas, je l'ai rencontré plusieurs fois dans différentes réunions. C'est un jeune vraiment. Je pense que c'est un modèle pour beaucoup. Ça devrait être un modèle pour beaucoup de jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça, mais ils n'ont pas encore réussi à percer justement ce mur de mépris et de parce qu'il y a un peu de ça quoi chez les médias et chez les politiciens. Ils méprisent totalement la parole des jeunes, et je crois qu'il faut arrêter avec ça, parce que peut-être les politiciens ils ont 60 ans ou 70 ans et que ça les indiffère si la terre disparaît, mais les jeunes eux, ils ont peut-être envie de vivre, ils ont peut-être envie d'avoir des enfants simplement. Moi je parle avec le cœur, ça peut paraître naïf et utopique, mais je crois que c'est important de dire ça quoi.
Alors tu dis que on méprise les jeunes, mais je pense qu'on méprise les vieux aussi, parce qu'il y a des gens, par exemple pour les OGM qui ont c'est pas parce qu'il y avait 90% des gens qui étaient contre les OGM que c'est pas passé. Donc on méprise tout, on méprise.
C'est ça, il y a un grand mépris de la population. On parle de démocratie, de droits de l'homme, mais actuellement on peut dire qu'il y a un grand recul de la démocratie. Et d'ailleurs c'est important aussi de dire que notre campagne, c'est pas une campagne, nous bien sûr qu'on est plutôt progressiste, on est pour le progrès social, hein. Mais il y a beaucoup de gens comme Jacques Chirac, des gens de droite qui ont pris position contre ce projet. C'est pas seulement un projet où il y a des gens, il y a aussi des gens de droite qui sont contre ce projet, il faut le savoir.
Ben voilà.
Et justement c'est une question qu'on pose, pourquoi monsieur Nicolas Sarkozy ne réagit pas et ne dit rien, qu'est-ce qu'il a caché là, c'est assez inquiétant, hein.
Même on peut dire qu'il y a des gens de droite et même des militaires qui s'opposent à ce projet.
Mais je crois que Bush va venir la semaine prochaine, non? C'est ça, on n'a pas le président Bush ou je ne sais qui vient, ou quelqu'un de très important des États-Unis qui vient en France la semaine prochaine, non? Ou dans très peu de temps. J'ai entendu
pas,
ça.
Je sais pas. Je sais que ce qui est important aussi, c'est qu'en République tchèque, ils vont signer là au début juin. Et c'est comment elle s'appelle là,
Je suis tout le temps son nom, j'arrive à la secrétaire d'État américaine.
Qui va venir pour signer. Donc là, peut-être elle va faire une petite tournée européenne pour amadouer les gens, faire vraiment.
Il y a Bush qui va se déplacer en République tchèque, justement, pour parler de ça. Et il y aura la ratification de l'accord par le Parlement tchèque. Hein. Donc effectivement, là maintenant, il y a un délai assez court.
Et le Parlement tchèque, alors, il est pro-américain ?
Alors, en fait, c'est le parti politique qui est à la tête du pays, hein, qui est pour. Alors, a priori, effectivement, le Parlement tchèque est dans sa majorité favorable, mais en fait, l'écart entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre est très faible.
Comme
donc,
pour les OGM.
Effectivement, il y a une possibilité là, avec une pression non violente de plus en plus forte, peut-être de faire basculer les choses. Ce que je voudrais dire aussi, par rapport à l'action, effectivement, c'est signer la pétition, mais là, c'est plus un appel d'aller au-delà même. C'est-à-dire que cette pétition, cette campagne, on peut la faire connaître à des amis, à de la famille, à ses collègues de travail, hein, que le plus de gens possible s'expriment à travers ça. On peut aider aussi, tout simplement, en aidant dans le contact des médias, parce que tout ça, il faudra bien que ça se sache un jour, et il faut que ça se sache de plus en plus. On peut aider à contacter des personnalités, hein, avec leur influence, et en soutenant cette campagne, ça donne plus de force. En réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup d'aide, et un peu notre état d'esprit de l'action, c'est qu'on cherche effectivement à ce que chacun ait sa place. Les jeunes, mais effectivement les plus vieux, peu importe l'âge des gens, hein, et avec toute la créativité et les formes possibles et imaginables. Hein, c'est-à-dire, c'est une forme de participation très ouverte.
D'accord, et là on revient un peu sur la Russie. Alors la Russie de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Alors ça c'est un point très crucial. Hein. Pas simplement d'ailleurs que la Russie, il y a aussi la Chine.
Ben
hein.
Oui.
C'est-à-dire que là ce qu'il faut bien voir c'est qu'on ne va pas donner les bons points. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas d'un côté les mauvais États-Unis et puis de l'autre côté il y a les bons Russes, les bons Chinois. Non, le thème n'est pas là. Hein. C'est-à-dire que nous on parle de désarmement mais c'est un désarmement total. Par contre ce qui se passe c'est que la Russie et la Chine bien sûr se sont tout de suite aperçus que si les États-Unis développaient ce projet, ce bouclier antimissile, ils auraient un avantage considérable. Donc il y a eu tout de suite une réaction des Russes, notamment qui les Russes ont menacé de se retirer d'un traité, hein, qui est un traité sur les missiles nucléaires de portée intermédiaire. Et si les Russes se retiraient de ça, ça aurait des graves conséquences. Bien sûr, les Russes ont maintenant développé des programmes pour améliorer leurs missiles eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans une course à l'armement totalement suicidaire. Hein. Et il faut savoir que là, les Russes prévoient de doubler leur budget militaire d'ici les 8 années qui viennent. Et la Chine de même. Alors la Chine, elle est un peu plus distraite, c'est un peu moins théâtral que la Russie. Hein. Mais la Chine, effectivement, est aussi en train de moderniser ses armes nucléaires. Et en train de moderniser aussi notamment sa flotte marine. Et donc en fait, là on arrive, il va y avoir un effet boule de neige. Je vais donner un exemple, parce qu'on parle du radar en Tchéquie, mais il y a aussi les missiles intercepteurs en Pologne. D'ailleurs au passage, il faut souligner aussi que la population polonaise à 70% est contre ce projet. Hein, c'est-à-dire que c'est pas notamment qu'en Tchéquie. Et donc, ce que vont faire les Russes en réponse, c'est qu'ils vont développer des nouveaux missiles pour avoir une portée suffisante pour atteindre les missiles en Pologne. Et en réaction, la Pologne a demandé aux États-Unis d'avoir un système de défense antimissile. Donc on voit bien avec cet exemple qu'il va y avoir une escalade sans fin et qui est complètement délirante, quoi.
C'est exactement le contraire de ce qu'on nous promettait il y a 10 ou 20 ans, quand M. Gorbatchev et Reagan avaient signé un accord pour non-prolifération.
Mais on n'a pas un pacifiste au pouvoir en ce moment.
C'est ça,
c'est-à-dire que les États... saurait quand même.
Mais tous les États...
Dans aucun État,
État, c'est le problème. Hein. Aujourd'hui,
si, il y a quand même des pays sans armée, il y en a quelques-uns.
Il y a Bolivie
actuellement. Ah, il y en a 14.
La Bolivie, dans la nouvelle constitution, c'est vraiment formidable. Hein. C'est un pays qui devrait être un exemple de révolution.
Non, effectivement, il y a un certain nombre d'États qui n'ont pas d'armée.
Et Cuba, je crois aussi.
Oui, un certain nombre d'États d'Amérique centrale, effectivement. Ouais. Et effectivement, ça, c'est un aspect positif qu'il faut mettre en avant et qu'il faut diffuser le plus possible, qui montre bien que c'est possible, parce que la Bolivie et ses États n'ont pas d'armée, c'est pas pour autant qu'ils sont plus menacés.
Oui, bien sûr.
Vous êtes venu par la gare du Nord, là ? Vous êtes venu en train ?
Oui.
Est-ce que vous avez vu Gare du Nord, ces policiers en treillis avec leur chapeau, enfin leur casquette et leur grande mitraillette. Enfin, pour moi, on est déjà en guerre.
Oui, il y a déjà une militarisation complète de la société, bien sûr.
Voilà.
Dans les esprits et dans les gares. Hein.
Dans les gares, on est en guerre.
Et dans les médias. Et c'est important de s'en rendre compte que tout ça, c'est pour installer. Enfin, moi, je me rends bien compte dans mon travail en contact avec les autres cultures que les gens sont de plus en plus fâchés avec ça. Parce qu'on se rend bien compte qu'on veut nous installer une culture qui est une culture individualiste, qui est une culture où on met plus qu'un seul dieu, un seul pouvoir, qui est celui de l'argent, que dans la tête des gens, on installe des croyances fausses, que tout doit se résoudre avec l'argent. C'est des croyances complètement fausses parce qu'on n'a jamais tout résolu avec l'argent. L'argent y contribue, les moyens contribuent, mais le plus important, c'est la force de l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut construire, comment on peut se projeter dans le futur, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Et ça, c'est le plus essentiel. Mais beaucoup de gens ont abandonné cette idée, ont abandonné, si je puis dire, leur humanité. Et je crois que c'est très très grave. C'est une culture qu'ils veulent installer sur toute la planète et ils sont prêts à une guerre effroyable pour l'installer. Je crois qu'il faut mettre ce thème des missiles dans le cadre de cette guerre culturelle, hein, contre les cultures. Et c'est vraiment là où moi, dans le Centre des Cultures, en tant que président, porte-parole du Centre des Cultures, je tiens à ce que notre organisme et tous les gens qui sont de cultures différentes s'impliquent dans cette campagne. C'est pas une affaire qu'à voir simplement avec l'Europe et avec la République tchèque.
C'est une affaire mondiale.
C'est une affaire de conserver ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes, dans notre culture, notre identité, et d'arrêter de subir cette dictature de l'argent.
Et de la force.
Et de la force qui l'impose par la violence.
Mais effectivement, enfin là on parle de ce qui se passe en Tchéquie, mais c'est un phénomène beaucoup plus global. Et effectivement, là, je le disais en introduction, en fait, quand je parlais de monde sans guerre et sans violence, effectivement, bon, la guerre c'est la forme de violence la plus extrême, mais nous, notre combat, c'est de lutter vraiment contre toute forme de violence. Et quand on regarde dans son quotidien, en fait, il y a différentes formes de violence. Hein, on peut parler de la violence économique. Quand quelqu'un se fait virer de son boulot et puis que quelque part on n'en a rien à foutre de ce qu'il devient, ça c'est une forme de violence. Hein, et il y a la violence raciale, il y a la violence sexuelle. Si on regarde avec aujourd'hui les femmes, comment elles sont traitées,
comme
même dans notre société française,
femme,
hein. Ça c'est une forme de violence. Et en fait, ce combat, il est avec le thème de la non-violence et sous toutes ces formes de violence. Alors à la fois avec des actions sociales, mais aussi le disait Denis. Aussi, il y a besoin d'une évolution des mentalités. Hein. Et pour compléter juste une chose que disait Denis, depuis le début de l'humanité et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une société où on nous dit ce qu'on doit penser, hein, on nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement très très fort des esprits, hein, et que chacun doit se libérer de ça. Et notamment, ce que je voulais dire, c'est que depuis le début de l'humanité, il y a une croyance qui s'est installée et qui est aujourd'hui très forte, et dans laquelle il faut faire quelque chose dans sa tête, c'est la croyance que tout peut se régler avec la violence.
Hein.
Et ça,
force, oui.
Effectivement, avec la force qui en découle, et ça je crois que c'est important que on change ça dans notre tête.
Les dictateurs ont installé dans la tête des gens que la violence était naturelle. La violence n'est pas du tout naturelle, c'est une énergie. Et en fonction de comment on canalise son énergie, elle peut se produire en violence ou en créativité ou en action vers les autres. C'est nous qui décidons comment on va générer notre vie dans le monde. Et c'est une question d'énergie. C'est pas du tout, la violence n'est pas du tout naturelle.
D'accord. Oui, je suis en train de vous écouter, donc je suis un peu... pour en revenir donc à cette violence, on peut aussi penser que tout ce qui se passe autour de nous, quand on voit l'armée, parce que c'est de l'armée avec des mitraillettes, et puis les policiers avec les il y a aussi les policiers avec tout leur hachement dans les gares, c'est aussi pour nous habituer à vivre dans ce monde-là.
De la peur. Voilà. Il y a beaucoup de peur.
Oui,
aussi.
Bien sûr.
Ça, j'ai vécu pendant une semaine aussi. Les gens ont très peur. Il y a une ambiance de peur, de méfiance de l'autre qui est vraiment énorme. Moi, je suis militant depuis 20 ans.
Militant, militaire, c'est pas loin.
Oui, mais quand je dis militant, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais quand je dis que je suis militant, moi je suis militant non violent, j'ai toujours été. Moi, au début, quand j'étais adolescent, mon maître c'était Gandhi et Martin Luther King. Hein. Après, j'ai connu d'autres références parce que souvent, on nous en balance une ou deux. Mais je dois dire que j'ai vu les choses évoluer, quoi, et je me rends bien compte que là, par exemple, j'ai passé pratiquement plusieurs heures dans la rue à contacter les gens chaque jour depuis 10 jours. Hein, et je sens cette peur et cette méfiance cachée chez les gens et cette espèce de
peur de l'autre.
Ouais,
peur oui, de l'autre et peur et du futur, du peur d'un certain nombre de choses.
Bah, oui. Un peu comme l'autruche qui voudrait pas voir la réalité, mais sa tête dans
Oui, mais justement, là, je voudrais revenir à un thème parce que tout à l'heure, moi, j'ai utilisé le terme urgence, mais je crois que justement, ça doit pas être vu comme un terme négatif, hein, parce que c'est vrai que quand on parle d'urgence, ça peut faire penser à la fatalité, à la peur, hein, comme si tout était fermé. Mais pour moi, par exemple, cette urgence, c'est, au contraire, c'est un signe qui montre que quelque part on est à la croisée de chemin, mais qu'on doit effectivement sortir définitivement de cette évolution mécanique de l'humanité qui est basée sur la guerre et la non-violence. C'est un signe qui montre qu'on doit emprunter un autre chemin. C'est un chemin d'ailleurs qui est emprunté déjà depuis par beaucoup de gens, qui est celui de la non-violence. Et en fait, moi, si je regarde aussi cette urgence, c'est un moment où effectivement je vais réfléchir profondément sur quelles sont mes aspirations, ce que je veux, dans quelles conditions je veux vivre, et quelque part, en fait, ça nous invite à une réflexion profonde sur le sens qu'on veut donner à notre vie.
Je crois que justement, il y a souvent eu des grandes crises dans les civilisations, et toujours, c'est des moments importants, les crises, parce que c'est des moments où on peut décider d'une nouvelle orientation qu'on va donner à notre vie, puis notre vie en ensemble, en communauté, en groupe, en état, si on veut, s'il y a encore des états et des frontières. Mais c'est vraiment important de se rendre compte que, bien sûr, ça peut être super désastreux, mais ça peut être aussi une super occasion de passer à une autre étape, en effet.
Parce que derrière, effectivement, c'est une opportunité, parce que derrière, nous, ce qu'on affirme, c'est que l'être humain a la liberté de choix et il a la capacité de construire le monde qu'il souhaite.
Ben, j'espère. On va faire une deuxième pause musicale, on va voir tout de suite après si
une intention.
On a vraiment tant de liberté. Merci, Francky.
Du regain, IDFM, ça change. Ça change de la radio.
Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Donc, justement, Eric Bastin voulait dire quelque chose. Je ne sais plus exactement ce que tu voulais dire.
Non, c'était plutôt pour la fin.
Ah ben voilà, et ben justement.
La conclusion.
Comme on est à la fin. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'on a discuté. On s'est posé la question, je vais le dire quand même, parce qu'on peut se poser la question si vraiment il y a un certain nombre de familles, comme disait mon père, 200 familles, qui se répartissent le gâteau, qui nous regardent un petit peu comme des pions sur un échiquier, qui seraient prêts à foutre tout ça par terre, ça reviendrait vraiment à penser que ces gens-là se prennent pour des dieux, à moins que ce soit nous qui nous prenions pour des dieux et qu'on se prend pour des immortels. Après tout, on est juste là de passage, j'en sais rien. Mais bon, on peut se poser la question vraiment, est-ce que ça serait possible que vraiment il y a un conflit mondial, mais qui serait loin de la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire qui ferait nettement plus de victimes, à savoir peut-être qui réduirait l'humanité à zéro. Ne vous détournez pas, j'attends que vous me donniez la réponse, mais on finira par une note positive.
Moi, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais je suis super... moi je suis toujours positif et toujours joyeux, ça c'est un état d'esprit, je pense que c'est important.
Ça se voit d'ailleurs, c'est ça qui est bien.
Et même si c'est vrai que ça me fait peur aussi, mais d'un autre côté, je vois beaucoup d'espoir aussi, parce que moi je sais, j'étudie un peu les civilisations, les cultures, et je sais que dans les moments de crise, il faut prendre une décision. Et j'espère qu'on va prendre la décision. Et c'est pas n'importe qui va prendre la décision, ce sera peut-être une minorité de gens. Je pense aussi, moi je suis très touché par les nouvelles générations, c'est vrai que c'est très à la mode de les casser. Je suis très touché aussi par les tu m'as dit militant militaire,
ouais,
c'est la même chose,
vrai,
mais moi je reste convaincu que c'est très bien de faire des choses vers les autres, de se bouger, d'activer des fois pour un résultat zéro. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins on fait circuler un état d'esprit, on fait circuler certaines idées, certaines informations qui sont pas qui circulent pas autrement. Donc je crois que c'est important, et je voudrais ici là, et à chaque fois, faut les remercier, tous ces gens, ces jeunes là qui sont conscients. Et il y en a de plus en plus, moi je m'en suis bien rendu compte, mais qui n'ont pas envie de bouger avec des fois des formes militantes comme des manifestations, mais avec leur forme, peut-être il faudra laisser plus la possibilité de s'exprimer avec leur forme. Mais, et puis aussi remercier tous ces gens qui depuis des années et des années, nos pères, nos grands-pères, ils ont lutté quand même pour une certaine libération de l'être humain, et aujourd'hui quand même tout ce qu'on a là, par exemple moi je disais je remerciais Gandhi ou Martin Luther King et tout ça, quand même ils sont morts et depuis longtemps, et c'est mon père, c'est mon grand-père, et c'est vrai qu'ils sont morts, mais ils sont toujours vivants. Et comme tu parlais d'immortalité,
voilà.
C'est important l'immortalité, c'est que quand on fait des bonnes actions, quand on fait des actions valables, des choses qui transforment le monde. Quand je dis le monde, ça peut être ses voisins, ses amis, ses proches, des trucs tout simples. Et ben, on devient immortel, puisque même si on disparaît, même si notre action même n'a pas eu de résultat, ça reste gravé dans l'esprit des gens, quoi. Et ça, je crois que c'est important, hein. C'est très important. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans cette société matérialiste et un peu hypocrite, on oublie toutes ces choses qui sont pourtant le cœur même et la base des cultures, hein, des croyances, des bonnes croyances, hein, des croyances évolutives, hein. Et on oublie tout ça parce qu'on est intéressé que par les objets, par l'argent, par les comptes en banque, la gestion d'un compte en banque, les AGO, etc. Mais ça, c'est des trucs super, super, super superficielle, hein. Je sais pas comment le dire pour dire mon mépris pour tout ça, et que c'est important de refaire sortir ce qu'on a au fond du cœur et de l'exprimer dans le monde en faisant des actes, comme par exemple de signer une pétition.
Alors, le site...
et continuer à s'organiser ensemble pour changer les choses.
Donc le site.
Le site du Centre des Cultures, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'il y a plein d'informations dessus.
www.centredescultures en un seul mot au pluriel.
Oui, il y a plusieurs cultures.
Voilà, on le redonnera à la fin. Et puis sinon, il y avait.
Centre des cultures.
C'est terminé par par le truc tchèque, là.
Ah oui, donc c'est le site www.nonviolencetoutattaché.cz. Voilà. Puisque c'est le site tchèque.
Oui, le site tchèque avec une version française.
Avec une version française ou dans toutes les langues d'ailleurs.
Ok.
Vraiment, c'est intéressant d'aller voir.
C'est assez urgent de
signer la pétition.
Signer la pétition, donc vous la signez, vous la faites passer.
Et puis sur nos rubriques de contact, laissez un petit mot si vous voulez aider pour, par exemple, on a des projets là à Milan, on va tous se réunir au niveau de l'Europe en octobre. Hein. On a déjà, on a réservé une université à Milan pour se réunir là-bas. Et aussi on a la même chose en novembre à Nairobi au Kenya, un forum au niveau de l'Afrique et avec des Européens qui vont bien venir, etc. Et puis en France, on a prévu un grand forum de la non-violence et pour la paix en février 2009. On est en train de chercher les lieux. Ouais. On est en train de chercher les intervenants, donc il y a des choses à faire. Hein.
Et en juin, il n'y a pas quelque chose qui se passe sur la paix, non? C'est pas...
Bah là, on est en train de réfléchir par rapport à une action qu'on pourrait faire par rapport au salon des vendeurs d'armes, là, Satori. Donc, mais là, j'ai pas. On est en train de chercher parce qu'on voudrait trouver une forme d'action. D'ailleurs, si vous avez des idées, les auditeurs, qui pourrait un peu réveiller les médias et les gens, quoi.
On refera une émission sur Satori. Donc, il y a déjà des choses qui se passent. Donc, mais ça sera le thème d'une autre émission.
Moi, je voulais juste compléter quelque chose par rapport à ta question, ce que disait Denis. Moi, je voudrais aussi témoigner une chose. Alors, c'est vrai qu'on peut croire que le monde, ça va basculer dans quelque chose d'effroyable. Et puis aussi, je crois que c'est un thème vraiment de regard et de croyance, quoi. Et puis aussi, on peut avoir la croyance, effectivement, que construire la nation humaine universelle, humaniser la Terre, c'est possible. Moi, en tout cas, j'ai pris cette option-là parce que, tout simplement, c'est la croyance qui est la plus utile pour ma vie. Hein. Et je crois que c'est la plus utile pour les autres. Et puis, je crois qu'il y a des signes, il y a des indicateurs. Hein, c'est-à-dire, quand on parle avec les gens, on se rend compte que les gens aspirent à autre chose. On se rend compte que les gens prennent conscience. Et puis, moi, il y a tout simplement cette chose, toute cette beauté à l'intérieur des gens. Moi, c'est ça que je veux regarder, sur lequel je veux croire. Et que c'est possible. Sinon, je voudrais dire aussi par rapport à l'action, je crois que c'est aussi, je voudrais transmettre un peu l'esprit de notre action, parce que pour nous, c'est pas une action militante, c'est pas une action revendicative, c'est pas une action aigrie sans futur. Pour moi, c'est effectivement une action qui vient du cœur, en fait, qui est basée sur nos meilleurs sentiments et nos meilleures aspirations. C'est l'action de la joie de vivre, hein. Et c'est une action justement qui ouvre des perspectives, qui ouvre un futur, hein. Et c'est aussi une action tout simplement où on découvre toute la beauté et la richesse qui existe en nous-mêmes et chez l'autre. C'est l'action aussi où on se rapproche des autres et on peut découvrir le frère ou la sœur qui existe chez l'autre. Et tout simplement, je crois que c'est aussi ressentir ce sentiment si merveilleux d'aimer l'autre.
D'accord, puis bon, je comprends pas.
On est humaniste, hein, vous comprenez, humaniste, c'est d'aimer l'être humain, quoi, d'aimer les gens.
C'est l'homme, oui, tout simplement. Bah oui, mais qui n'est pas humaniste? Enfin bon, à part ceux qui peuvent se permettre de détruire leur ennemi, si ennemi il y a...
Ça se voit dans l'attitude, hein. L'attitude de l'humaniste, c'est la règle d'or qui se retrouve dans toutes les cultures et toutes les croyances à la base, qui dit simplement traite les autres tels que tu aimerais être traité toi-même. Cette règle d'or, on la trouve dans toutes les cultures, toutes les religions, même des religions ou des cultures qui n'ont aucune relation historique entre elles, hein. Ça veut dire que c'est la base même de la vie d'être humain qui est avec les autres, quoi, qui est en en harmonie, en cohérence avec les autres. Et si ça existe, c'est pas un hasard. Je sais qu'on l'a oublié aujourd'hui, que c'est pas notre préoccupation aujourd'hui, mais moi je redis, et c'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose du futur, parce que c'est ça qui va nous aider à transformer les choses.
Et oui, c'est pour ça que c'est important aussi que toutes ces bonnes personnes, je dirais, c'est important de recréer ces liens qui sont perdus, recréer le tissu social qui a été détruit. Et c'est comme chercher tout, rassembler toutes ces personnes et à commencer à s'organiser, à faire des choses. Et il y a une dernière chose que je voudrais dire, mais il n'y a jamais de petites actions ou de petites activités. Des fois, on croit que ce que l'on fait, c'est pas grand-chose. Non, toute chose qui est faite est très importante et très précieuse parce que tout simplement, ça se regroupe avec une multitude d'autres intentions qui vont vers défendre une cause qui est noble et juste. Comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves.
Moi, j'ai quelque chose à proposer, par exemple, aux auditeurs qui nous écoutent. Demain, c'est la fête des voisins.
Et auditrices. Ah, c'est demain la fête des voisins ?
Oui, c'est demain. Moi, je la fais dans mon immeuble et je sais que je vais dire à mes voisins de signer la pétition et d'aider pour les projets. Et pourquoi pas demain, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Auditrices et auditeurs, j'ai changé.
Voilà,
comme ça. Il y a des trucs qui nous restent du passé, des fois. Quoi. Et donc... Je les invite, pourquoi pas, c'est pas tellement difficile non, d'inviter ses voisins et de faire une bouffe, mais dans le milieu, il voudrait simplement qu'on fasse une bouffe entre voisins, mais pourquoi pas rajouter un petit truc qui va vers les autres, qui aide les autres dans cette rencontre entre les voisins, par exemple de faire quelque chose contre la guerre, de faire quelque chose vers les autres cultures, vers quelque chose de bien, quoi, de vraiment bien.
Voilà, je suis tout étonnée que ce soit la fête des voisins, parce qu'on se croirait vraiment pas au mois de mai, je suis désolée, mais bon, on est tous avec nos trucs en attendant qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou je ne sais quoi. La Terre, enfin, elle a vraiment des problèmes, la Terre, en ce moment. Il se passe pas une semaine sans qu'on entende des catastrophes ou des recatastrophes. Je veux dire, il se passe des choses, on a plein de messages de partout qu'on veut pas entendre, et ça serait vraiment quand même stupide d'en rajouter, de mettre un bouclier, je ne sais pas, anti-je-ne-sais-quoi, là, qu'est-ce qu'ils ont besoin de venir en Europe? Ils ont qu'à rester chez eux, les Américains. On est d'accord?
Oui, bien sûr, c'est une sorte
est-ce
de
qu'on va mettre des boucliers, nous, anti-machin, en Amérique? Il y a des choses qui semblent complètement aberrantes.
C'est aberrant, c'est sûr, puisqu'ils veulent l'imposer par le silence sans informer les gens. Donc c'est clair que c'est quelque chose d'aberrant. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Il y a des gens qui disent que ça peut être bien. S'ils l'ont caché, c'est forcément mal, quoi.
Bon, on va pas faire trop de silence là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission. Monde sans culture.
Monde sans guerre.
Monde sans guerre. Monde sans culture et centre des guerres. Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Monde sans guerre. Monde sans guerre et centre des cultures. Non, tous les deux.
Je crois que l'appel, c'est un appel à participation. Maintenant, effectivement, ce qui est important, c'est de chercher à construire autre chose, construire quelque chose qui est en rapport avec ce que l'on souhaite, nous, pas ce que nous disent les dirigeants ou ce que nous dit la télé. Et je crois que c'est.
Il faut aller vers
simplement...
le désarmement, c'est clair.
Et je crois que c'est tout simplement écouter son cœur et chercher à exprimer le meilleur qui existe en soi-même vers les autres
et
en s'organisant avec les autres.
S'unir. Même si on n'est pas tellement. On ne se ressemble pas, il y a des gens de différentes générations, de différentes cultures, croyances, des gens qui pensent agir comme ça et d'autres autrement, mais on pourrait être unis au moins.
Et quelque part, c'est faire le choix de la vie. Parce que moi, si je compare ma vie au jour d'aujourd'hui, où j'essaie de faire des choses avec d'autres pour faire avancer des causes auxquelles je crois, je crois que je préfère beaucoup plus ma vie actuelle que celle d'il y a 20 ans où j'étais totalement inactif et aigri, désespéré. Donc,
ceux qui sont aigris ou désespérés,
non, c'est pas pour les gens aigris, désespérés, non, mais c'est,
c'est
vraiment
ça va leur faire changer de caractère,
oui, non, mais c'est
faut
surtout
d'abord le vouloir,
c'est
soi-même, faut se poser la question à soi,
oui, voilà, je crois que c'est vraiment c'est une réflexion profonde en relation avec soi-même, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je veux vivre. Parce que notre action, c'est pas une action extérieure, c'est des choses aussi qui se passent à l'intérieur. Et pour moi, c'est un peu comme une direction, un style de signe, c'est une attitude dans la vie.
Alors en Pologne, donc il y a ces gens dont on va rappeler le nom, les deux Yann.
Ah, pas en Pologne, mais en République tchèque.
En République tchèque, Yann.
Yann Tamash et Yann Bednar.
D'accord.
Qui sont en grève de la faim depuis 15 jours. D'ailleurs, je sais que Yann Bednar est pas en forme.
A des problèmes de santé.
Et c'est sûr qu'au bout de 15 jours, c'est un peu difficile.
Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres amis.
Est-ce qu'il y a des médecins, moi, qui sont
bien sûr. Oui. Prévu, mais... Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres amis qui ont aussi, par solidarité, se sont mis en grève de la faim dans différents pays. Et même des personnes, je crois, aux États-Unis ou dans un autre pays assez éloigné, qui ne sont pas des humanistes, mais qui sont des gens qui expriment aussi leur solidarité de cette manière.
En espérant que ça marche, est-ce que ça marche encore les grèves de la faim?
Oui, bah justement, on a toute une discussion là-dessus, mais ce qui est important, c'est respecter cette forme.
Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver de mieux qu'une grève? Enfin, voilà, parce que tu disais
que. Le problème, c'est qu'on en arrive là parce que les médias et les gens, les politiciens, nous écoutent plus, quoi. Et on parle de la grève de la faim de nos deux amis, mais là, par exemple, actuellement, il y a des sans-papiers qui sont en grève de la faim.
Oui, on le sait. Ouais.
Et c'est malheureusement malheureux que des jeunes. Ou des gens qui ont comme un futur devant eux, en arrivent à se mutiler le corps pour simplement faire entendre une voix de sagesse, quoi. C'est un minimum que l'être humain soit respecté. Nous, on n'a pas choisi les frontières, la colonisation, la guerre. On n'a jamais choisi ça, nous. On ne nous a jamais demandé notre avis là-dessus. Donc, je crois qu'il faut commencer à écouter la voix de la sagesse et faire autre chose. C'est pas possible que les jeunes générations, c'est souvent des jeunes, on arrive à ce point-là, quoi.
Tu voulais laisser un numéro de téléphone, je crois, qu'on n'a pas donné.
Alors, je laisse le site web www.centredesculture.org. Le site aussi tchèque, donc www.nonviolence.cz. Et aussi, vous pouvez appeler chez moi 01 44 85 74 68. Là, vous tomberez directement chez Denis Dégé. Je suis le président et porte-parole du Centre des Cultures. Et on verra un peu comment on peut s'entraider pour faire avancer.
Oui, si vous trouvez des idées. Voilà. Parce que, par exemple,
des idées d'action.
Ça ne fait plus bouger personne. Est-ce qu'on ne pourrait pas couper l'alimentation de ceux qui nous embêtent, que ce soit eux qui soient en grève? Ça irait nettement plus vite.
Ah oui, ça serait bien. Ça leur ferait du bien d'être en grève d'affaires, enfin, c'est sûr.
Ça jeûne un peu. Ou alors, on les force à manger des OGM. Voilà,
bon. Ah oui, il y a une ministre qui a dit ça justement, que elle allait, la ministre, je m'en rappelle plus de son nom, dans le gouvernement Sarkozy, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle donnerait à manger à ses enfants? Elle dit, moi je leur donnerais de la nourriture bio, alors qu'elle fait voter une loi pour,
ouais, de toute façon, voilà,
pour les OGM, c'est un peu bizarre, quoi.
Non, merci Francky d'avoir été à la technique. Je vous remercie tous les deux d'être venus à cette émission. Il y aura une autre émission sur justement Eurosatory qui aura lieu dans peu de temps. Je ne sais pas qui sera là. Donc c'était Éric Bastin, Monde sans guerre, et Denis Dégé, Centre des Cultures, donc centredesculture.org et Monde sans guerre. Vous, peut-être en tapant Monde sans guerre, on trouve quelque chose sur le net.
Oui, malheureusement, le nom du site est un peu compliqué.
C'est chez Haut et Fort. Il faut faire d'abord Haut et Fort et ensuite il y a Monde sans guerre. C'est un blog.
Oui.
Haut et Fort, parlez haut et fort.
Avec une.
À la semaine prochaine si vous le voulez.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir. /w3c/dtd/html